Débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Obsolète pour Donald Trump en 2016, en état de mort cérébrale pour Emmanuel Macron il y a quelques jours, des désaccords sur le financement, d'autres sur les choix stratégiques en Syrie, notamment de la part de la Turquie et des États-Unis. Et il est à peu près certain que les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont des choses importantes à se dire et ont à se les dire franchement. Et que cela a commencé aujourd'hui près de Londres pour la réunion du 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique. Des choses sur le fonctionnement de l'Alliance, sur la prise de décision en son sein et sur ses buts, non seulement militaires, mais aussi politiques. À quoi sert l'OTAN ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Evelyne Matthey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur sur les organisations multilatérales de sécurité à l'IRSEM, c'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et ancienne administratrice de l'OTAN. Et Amélie Zima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'OTAN et auteur d'ennemis à alliés, l'adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque à l'OTAN, c'est aux éditions Peter Lang. Comment l'une et l'autre, est-ce que aujourd'hui vous définiriez l'OTAN ? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de définir simplement son rôle, ses missions, ses principes ? Evelyne Matthey.
Alors je vous dirais que, compte tenu de l'expérience que j'ai eue, pour moi l'OTAN est une organisation militaire résiliente. On marque aujourd'hui un anniversaire, on le marque de façon probablement un petit peu inhabituelle, puisque dans un premier temps on avait dit que nous aurions un sommet, ensuite on a dit que ça serait une réunion, et là maintenant ça sera demain en fait une réunion courte qui va marquer effectivement les 70 ans de l'Alliance. Cette Alliance, si on regarde bien ce qu'elle a fait au cours des décennies qui se sont écoulées, elle est passée de 12 membres à 29 puis 30, puisque avec l'entrée de la République Macédoine Nord, elle accueillera son 30e membre. Elle a également de nombreux partenaires. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette alliance, du fait du nombre de membres, montre qu'elle reste attractive.
Amélie Zima, voilà pour l'historique un peu de l'OTAN, depuis comment elle a évolué depuis 70 ans. Est-ce que c'est facile pour vous de définir son rôle actuellement ?
Tout d'abord, je suis d'accord avec Evelyne Matthey. C'est une alliance qui reste attractive, ça c'est sûr. Ça se voit avec les nombreux processus d'élargissement qu'il y a eu depuis la fin de la guerre froide. Et concernant ses rôles, missions et principes, je dirais que l'OTAN a trois fonctions principales. D'une part, c'est d'assurer la sécurité de la zone de l'Atlantique Nord. D'autre part, c'est assurer la stabilité interne de la zone de l'Atlantique Nord. Et ça, assurer cette stabilité, elle le fait notamment par le biais des élargissements. Et puis, elle a une troisième fonction un peu plus symbolique, c'est d'être une communauté de valeurs, une communauté de valeurs libérale et démocratique. Et c'est ce qui la distingue, en fait, des alliances militaires, je dirais, plus traditionnelles, plus classiques, justement, c'est ce troisième point.
Donc d'abord, Evelyne Matthey, c'est une alliance militaire qui défend un territoire d'abord, enfin une région en tout cas.
Oui, alors elle a effectivement pour vocation de défendre tout membre qui serait attaqué. Voilà. Donc ça, c'est sa vocation première, mais c'est pas exclusivement sa vocation. Sa vocation, c'est aussi de pouvoir avoir une dimension de consultation entre alliés. Et ça, ça me paraît très important à l'heure actuelle, parce que ce qui s'est passé récemment montre qu'il n'y a pas eu suffisamment de consultation pour certaines actions.
On a manifestement du mal à se parler, hein.
Et alors, je voudrais ajouter, si vous le permettez, qu'il s'agit d'une organisation qui a aussi pour vocation de favoriser l'interopérabilité des armées. Parce que si on peut opérer ensemble, on doit respecter un certain nombre de procédures, et ces procédures s'apprennent. Je rajouterai que au cours des décennies, entre le moment où elle a été créée et aujourd'hui, l'OTAN a conduit quasiment une vingtaine d'opérations à différents titres.
Amélie Zima, vous en parliez tout à l'heure, l'OTAN défend une communauté de valeurs, des principes de gouvernement, c'est des démocraties libérales qui se mettent ensemble autour de l'Atlantique Nord, c'est ça, c'est l'idée ?
Alors, c'est le principe.
Oui.
Dans les faits, ça n'a jamais réellement été le cas. Dès la fondation de l'OTAN, en fait, parmi les États membres, il y avait le Portugal de Salazar. il y avait la Turquie, il y a eu la Grèce des colonels, donc ça n'a jamais été vraiment le cas. Après 89, il y a eu la volonté de renouer avec les idéaux originels et de renouer avec cet idéal libéral et démocratique. On voit que c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a la Turquie, depuis le putsch, raté de juillet 2016. Et puis, à côté de ces cas qui basculent vraiment vers l'autoritarisme, on a des politiques aussi qui flirtent avec l'autoritarisme, avec des pratiques qui sont pas tout à fait libérales, pas tout à fait démocratiques. Et là, on pourrait penser, aux États-Unis de Trump, quoi, où on a un style de politique qui s'éloigne quand même de l'idéal de l'Alliance, qui est quand même l'idéal des Lumières, du siècle des Lumières.
Evelyne Matthey, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des membres associés, en plus des 29 actuellement, 30 avec la Macédoine du Nord prochainement. Est-ce que ça ne brouille pas un petit peu le message? Parce que ce sont des membres associés qui s'éloignent de plus en plus de l'Europe de l'Ouest et du Nord.
Alors, on a effectivement un certain nombre de partenaires qui se situent dans des zones géographiques qui ne sont pas initialement celles auxquelles nous pourrions penser. Alors, on a un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires qui sont ce qu'on a appelé des like-minded. Et ça a été extrêmement important au moment de la projection de force pour l'Afghanistan. On a un certain nombre de pays également sont des pays qui relèvent d'une politique partenariale qui est celle du dialogue méditerranéen, de l'initiative de coopération d'Istanbul, donc qui en fait ont progressivement conduit l'Alliance à avoir des partenaires qui les ont aidés dans les opérations et qui ont permis notamment, et je pense à ceux de l'initiative de coopération d'Istanbul, qui ont permis de projeter des forces. Et puis, on a aussi des partenariats particuliers, spéciaux, qui sont le partenariat particulier avec la Russie, avec l'Ukraine et avec la Géorgie.
Alors, ça tombe très bien que vous parliez de la Russie, parce que quand même, historiquement, l'OTAN s'est construite en opposition, enfin, ou d'ailleurs, c'est plutôt le pacte de Varsovie qui s'est construit en opposition à l'OTAN, et donc autour du contre le bloc soviétique. Amélie Zima, est-ce que la Russie reste une menace pour les pays de l'OTAN? Est-ce que c'est considéré comme une menace par les pays de l'OTAN? On voit qu'Emmanuel Macron, il a tenté d'entamer un dialogue un peu plus proche avec la Russie ces derniers mois.
Alors, il serait déjà intéressant de noter que dans le traité fondateur de l'OTAN, qui est le traité de Washington, il n'est jamais fait mention de la Russie, ni de l'URSS. Donc l'OTAN ne se définit pas théoriquement par rapport à la Russie et avant à l'URSS. Alors concernant la Russie, Evelyne Matthey parlait des partenariats. En fait, après 89, la Russie ne voulait pas rentrer dans les partenariats classiques de l'OTAN, comme le partenariat pour la paix. Elle voulait que l'OTAN lui reconnaisse un statut spécial, parce que grande puissance politique, grande puissance géostratégique, grande puissance nucléaire. Et ça a été le cas. Ça a été l'acte fondateur OTAN-Russie, puis la création du Conseil OTAN-Russie. Donc il y a un canal de discussion avec la Russie très particulier que n'ont pas nécessairement les autres pays partenaires de l'OTAN, justement, qui sont dans des programmes plus globaux. Concernant l'approche actuelle avec la Russie, en fait, le dialogue avec la Russie, il a été suspendu déjà à de nombreuses reprises. Il a été suspendu au moment, par exemple, de l'action de la Russie en Ukraine, en Géorgie déjà. Il y a une relation qui est assez complexe, même à travers l'existence de ce Conseil OTAN-Russie. Et en fait, l'approche qui est voulue par Macron, elle est rejetée par un certain nombre d'États membres. Elle est rejetée notamment par les États d'Europe centrale et orientale, qui se rappelle la Crimée, la guerre dans le Donbass. Et puis, elle est un peu rejetée aussi par le secrétaire général de l'OTAN, puisque le secrétaire général de l'OTAN insiste sur le fait qu'on doit avoir une attitude ferme avec la Russie, qu'on doit dialoguer, mais une attitude ferme, et que surtout, on doit être unis face à la Russie. L'idée, c'est pas de permettre, d'une certaine façon, à la Russie de diviser pour mieux régner.
Evelyne Matthey, le fait que les différents pays membres de l'OTAN n'aient pas tout à fait, ces derniers mois, la même approche par rapport à leur relation avec la Russie, ça pose quand même un petit problème, non?
Alors, on peut effectivement penser que ça pose un problème, parce que ça veut dire que nous n'avons pas tous la même échelle de valeurs. Mais je crois qu'aussi que dans la diversité, dans certains cas, on peut trouver une forme de stimulation à agir au profit de tous. Il est vrai que des actions qui ont été menées par la Russie à l'encontre des alliés pose problème. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour vraiment doser le dialogue et la dissuasion. Parce qu'on parle de dialogue, mais on a aussi défini une politique qui est une politique de dissuasion. Et donc, défense et dissuasion. Donc, ce dosage doit se faire de façon à conduire la Russie à retrouver un rôle dans la communauté internationale et à l'OTAN.
Oui, notamment les forces de l'OTAN, les pays de l'OTAN montrent les muscles à l'est de l'Europe et notamment dans les pays baltes hein, face
tout
à la Russie.
Tout à fait, mais on a justement mis sur pied une politique qui permet une présence des forces de l'OTAN dans cette région. Oui. Et une présence qui est significative et qui lance un message très sérieux d'avertissement et de dissuasion. Je parlais de dissuasion et de défense.
Amélie Zima, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, forte présence, je nuancerais. Hein. C'est quand même pas une présence massive. Hein. C'est des petits bataillons. Ce qui avait été décidé au sommet de l'OTAN à Varsovie en 2016, c'était 1000 personnes par pays. Hein. Donc c'est pas 1000 soldats par pays. L'idée, c'est que c'est symbolique. Parce qu'en fait, s'il y a une attaque contre un de ces pays, c'est pas ces bataillons qui vont retenir une attaque, mais c'est tous les pays membres de l'OTAN qui sont représentés dans ces bataillons. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas frapper uniquement des soldats estoniens ou des soldats lituaniens, mais potentiellement des soldats britanniques ou canadiens.
Ou français.
Voilà, ou français. Donc c'est ça l'idée hein, qui est...
Oui, Evelyne Matthé.
Oui, alors je voudrais effectivement rebondir sur ce que vient de dire Amélie Zuma, c'est que certes, en termes de présence au sol, il y a un aspect symbolique, mais il y a aussi toute l'aide qui est apportée sous l'aspect qui n'est pas purement militaire, mais qui est cette guerre hybride qui est menée. Et donc ça, c'est effectivement un ajout complémentaire qui permet de contenir des actions extrêmement néfaste à la bonne marche de la démocratie.
Aujourd'hui, en arrivant à Watford, donc près de Londres, où se déroule cette alors réunion, sommet de l'OTAN, on ne sait pas très bien comment l'appeler, hein, ce rassemblement. Emmanuel Macron disait que la menace principale à laquelle devaient faire face les pays de l'OTAN, c'était le terrorisme. Est-ce que ça fait partie des statuts ? Est-ce que ça fait partie peut-être éventuellement de la redéfinition du rôle de l'OTAN, Amélie Zima ?
En fait, c'est une position française de dire que la menace principale de l'OTAN, c'est le terrorisme. Parce que si vous reprenez encore les positions des pays d'Europe centrale et des Baltes, c'est absolument pas le terrorisme. Pour eux, c'est le flanc Est, la menace principale. Donc là, il y a déjà un petit problème de définition de qu'est-ce que la menace principale contre l'OTan. Là, il n'y a pas du tout...
Evelyne Matthé, la France est seule sur ce coup-là ?
Alors, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand il y a eu l'intervention en Afghanistan, quelque part, c'était déjà le terrorisme.
Vous avez parlé, Evelyne Matthé, d'interopérabilité des armements. La Turquie a acheté des missiles anti-aériens russes S-400. Est-ce que c'est compatible avec cette interopérabilité des armements ? Est-ce que c'est compatible si on va plus loin avec l'appartenance à l'Alliance Atlantique ?
Alors, ça pose un vrai problème. Et c'est ça un petit peu qui a secoué toute l'Alliance, parce que, par tradition, on s'équipe, de façon à être interopérable, on s'équipe avec des équipements qui, en fait, permettent de jouer ensemble. Là, on court le risque d'avoir des équipements de l'Alliance qui seront devenus transparents pour la Russie. Et ça pose un problème de solidarité réelle et fondamentale.
Oui, Amélie Zima, est-ce que la Turquie, qui est, je crois, la deuxième puissance de l'OTAN en termes de force militaire, en termes de soldats, est-ce qu'elle fait cavalier seul actuellement ? Sur ces questions d'armes, d'abord, pour commencer.
Alors, en fait, si vous écoutez le secrétaire général de l'OTAN, il va vous dire que non, il n'y a aucun problème avec la Turquie. Il y a une sorte de déni un peu officiel quand il s'exprime dans la presse, parce que la Turquie reste un partenaire géostratégique assez important. Mais la Turquie pose problème justement à cause de ces S-400. Et il y a déjà eu une forme de représailles des États-Unis, puisque la Turquie est sortie du programme des F-35, des avions de chasse F-35.
L'avion multirôle américain, voilà, qui doit équiper la plupart des pays de l'OTAN.
Et puis la Turquie fait des déclarations assez étranges, par exemple. On a appris aujourd'hui, je disais la presse d'Europe centrale, que par exemple la Turquie a décidé de bloquer le travail sur les plans de défense pour la Pologne et les Pays-Baltes, par exemple. Donc là, il y aurait une rupture claire de la solidarité. On ne sait pas si c'est une déclaration de politique intérieure ou si la Turquie va aller jusqu'au bout et ne pas assumer finalement son rôle d'allié. Mais donc la Turquie pose problème comme ça. Et puis elle pose problème aussi parce que le gouvernement qui est mis en place par Erdogan n'est pas un gouvernement qui respecte les principes de l'OTAN. Donc un problème en équipement et un problème politique.
Et la Turquie, toujours elle, est intervenue de manière, on va quand même le dire, assez unilatérale dans le nord de la Syrie. Est-ce qu'on peut imaginer que des pays de l'OTAN se retrouvent impliqués sur place en tant qu'alliés de la Turquie, si jamais, par exemple, c'est quand même un pays assez instable, si jamais les forces syriennes se confrontaient sérieusement aux forces turques, par exemple, Evelyne Matté?
Alors, les décisions se prendront entre les alliés, c'est évident. Et c'est évident qu'en fait, je pense qu'il y a un volet qui doit être renforcé, c'est celui de la consultation. Consultation pour la transparence, mais consultation dans la mesure où il faut savoir quel type d'action on entreprendrait. Une alliance, ce sont des alliés. D'abord. Et en fait, il faut qu'effectivement, les alliés respectent la même échelle de valeur.
Vous diriez que l'OTAN, actuellement, a besoin de la Turquie, encore ? Telle qu'elle agit en ce moment, la Turquie ?
Alors, je pense qu'il est difficile d'avoir une démarche d'exclusion immédiate. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de bases en Turquie qui permettent effectivement à des projections de force.
La fameuse base Inçirlik.
Voilà. Mais on se rend compte aussi que dans le cadre du partenariat avec l'ICI, il y a d'autres possibilités. Donc c'est un jeu qui peut être extrêmement dangereux parce que on ne peut pas non plus totalement laisser de côté un pays qui est en proie à des déchirements internes et qui finalement projette ces déchirements sur l'extérieur.
Amélie Zima, je vous pose la même question. L'OTAN a besoin de la Turquie ?
Bah, c'est là qu'on, enfin c'est la question qu'a posé le président Macron. Hein. Qu'est-ce qu'on fait si la Syrie attaque la Turquie? Bon, de toute façon, l'article 5, ils vont, enfin pour savoir si on le déclenche, il y aura une discussion entre alliés. Donc ça, c'est impossible de savoir ce qu'ils vont faire.
L'article 5, c'est
la clause de défense.
Les alliés se doivent mutuellement assistance.
Voilà. Donc ça, ils vont discuter entre eux et ils réfléchiront certainement au cas par cas. Il a été activé qu'une seule fois, cet article 5.
Ouais. C'était d'ailleurs à la demande des États-Unis en 2001 après le 11 septembre.
Voilà. Absolument.
Voilà, exactement.
Lutte contre le terrorisme.
Mmh, ouais. Absolument.
Et donc, c'est très difficile de savoir. J'aurais la même position qu'Evelyne Matté, en fait, de dire qu'on peut exclure la Turquie à l'heure actuelle, ça semble difficile pour l'OTAN.
Est-ce que l'Europe, parce qu'on parle beaucoup d'Europe de la défense, c'est d'ailleurs une des grandes idées d'Emmanuel Macron, l'armée européenne, est-ce qu'actuellement l'Europe, elle a les moyens de se défendre sans l'OTAN, Evelyne Matté? Je connais la réponse, mais bon, allez-y.
Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont en fait, qui relèvent en fait des capacités de l'OTAN et d'un grand allié, on va dire. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons un intérêt réel à ce que l'Union européenne puisse avoir une vraie dimension d'Europe de la défense. Et ça, je crois que il est incontestable que c'est ce vers quoi nous devons nous orienter. Nous devons, au demeurant, réagir sur le fait que nous avons un certain nombre de carences capacitaires qu'il nous faut combler et que nous avons depuis plusieurs décennies.
En quelques secondes, quelques mots là-dessus,
Oui, donc l'armée européenne, si on écoute le secrétaire général de l'OTAN, c'est pas possible. L'UE ne peut pas se défendre toute seule. En fait, je rajouterai juste un point, c'est qu'il y a des accords entre l'OTAN et l'UE, c'est les accords de Berlin Plus, qui ont été faits au début des années 2000, et il faudrait en fait retravailler le lien institutionnel entre les deux organisations.
D'accord. Merci beaucoup, Amélie Zima. Merci, Evelyne Matté, à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.